Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle apérophonie. Ce soir, nous recevons Edith de Canal Science pour son deuxième numéro qui va nous parler de textile, de pollution, de microparticules, mais le mieux c'est encore de l'écouter.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission Canal Science. Aujourd'hui, je vais vous parler de textile, de pollution par microparticules, de cordage et de machines à laver. Et oui, je me suis rendue à la fête de la science de Voiron et différents ateliers étaient présents. Et on m'a parlé de fil, on m'a parlé de tissu et on m'a parlé de pollution. Pour vous, tout de suite, toute la vérité là-dessus.
Gilles Alcossard, le président de l'Union locale des MJC. C'est les MJC du Puy-Bornay, donc Voiron, Vorep, La Buisse, Rive et Tulin,
oui.
qui organisent depuis 3 ans la fête de la science. Donc c'est un collectif de bénévoles de ces maisons-là qui se mettent ensemble et qui prennent l'organisation et la tenue des ateliers pendant la fête de la science.
Donc on se situe à la salle des fêtes de Voiron, nous sommes donc jeudi 3 octobre, et donc aujourd'hui vous accueillez, j'ai vu, des scolaires,
voilà,
toute la journée.
Voilà, donc l'événement est sur 4 jours,
oui.
Jeudi, vendredi, c'est des journées dédiées pour les scolaires, donc on invite les primaires et les collèges du pays voironnais à venir faire les ateliers dans le calme, donc c'est des ateliers qui sont assez orientés pour ce type de public.
D'accord.
Et puis le week-end, on est ouvert à tout public.
Et j'ai repéré 2 autres événements ce week-end à côté de donc, ces ateliers qui seront situés à la salle des fêtes. On va en parler un peu plus tout à l'heure, de ces ateliers. Il y a également une conférence qui va se dérouler, oui, à la salle des fêtes, c'est ça? Et
alors,
un challenge de robotique.
Exactement.
C'est
donc,
les deux temps
forts. Il y a un challenge de robotique qu'on inclut dans la fête de la science. C'est un challenge de robotique qui aura lieu samedi après-midi. Qui met en compétition les ateliers numériques des MJC de l'Isère, département. Donc sont inscrites à ce jour 5 MJC, donc Tulin, La Buisse, Clé, Saint-Martin-d'Hères et Bivier, avec des jeunes qui viennent concourir. Donc c'est un projet qui est sur 6 mois, conception des robots, conception du challenge, fabrication, donc ça c'est dans chacun des ateliers numériques des MJC, et un moment tous ensemble convivial pour faire cette compétition.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur cette compétition? Que vont devoir réaliser les robots de ces enfants?
Alors, on a 2 plaques de jeu. Sur ces plaques de jeu, il y a un labyrinthe et on a 2 robots. Un robot qui va se déplacer dans le labyrinthe et attraper des balles de ping-pong qui sont positionnées sur 2 hauteurs. Donc, il y a une partie mécanique. Et il y a un petit robot suiveur qui va rester derrière le gros robot et attraper et récupérer les balles et les ramener à la maison. Ce qui fait que pour chaque challenge, il y a 2 jeunes de par équipe qui jouent, donc chacun a son robot et toute la stratégie derrière d'attraper, de se déplacer à l'intérieur d'un labyrinthe pour ramener le maximum de balles de ping-pong en 5 minutes. Donc la conférence, c'est le lundi 14 octobre. 18h30 à la salle des fêtes, donc au même endroit où on se trouve pour la fête de la science cette semaine. Nous avons le plaisir de recevoir M. Gérard Mourou, prix Nobel de physique 2018, qui vient passer l'après-midi à Voiron, qui est un ancien élève de Ferdinand Buisson. C'est pour ça qu'on a la chance de l'avoir sur Voiron. Donc il va passer l'après-midi à Ferdinand Buisson, rencontrer les élèves et les enseignants. Et puis il vient parmi nous pour une conférence, 18h30, 45 minutes de conférence, et puis une demi-heure, 3/4 d'heure de questions-réponses des gens qui vont assister. Voilà.
De quoi est-ce qu'il va nous parler un petit peu?
Alors, j'ai pas exactement l'agenda, mais je pense qu'il va un peu parler de son parcours scolaire, puisque c'est quelqu'un qui vient de Voiron, et puis probablement un petit peu de
qu'est-ce qui lui a
ses recherches, qu'est-ce qui lui a valu le prix Nobel, en essayant tout de vulgariser pour que ça soit accessible à tout public.
Je crois qu'il a beaucoup fait de recherches sur les lasers.
Son prix Nobel a été pour le laser, donc c'est un prix Nobel qu'il a eu avec une personne américaine, donc c'est un duo voilà. Je crois que c'est à utilisation dans la médecine. Par contre, je vais attendre la conférence pour en savoir un peu plus. J'ai pas eu le temps de me renseigner plus en
à découvrir. Est-ce qu'on reparle un petit peu de ces ateliers? Donc là, je suis passée devant une série de personnes qui étaient derrière à préparer des choses. J'ai vu de la terre,
Donc le thème de la fête de la science cette année est au fil de la fibre, donc très orienté la fibre. Alors la fibre dans tous ses états, la fibre végétale, dans quoi on trouve la fibre, tous les éléments qui permettent de faire des choses avec, des cordes, de l'impression, des choses comme ça. Donc c'est le thème un peu général de cette fête de la science. Donc plein d'ateliers assez orientés sur du matériel qui permet de tisser, de faire des vêtements, de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on fait, comment on récupère les fibres, qu'est-ce qu'on peut faire avec, tout ce qui est les colorants naturels. La fibre dans la partie médicale. On a un petit jeu de recherche scientifique dans lequel il y a des fibres à découvrir, à reconnaître et essayer de trouver des indices pour trouver quel est le criminel. Donc un petit jeu derrière. Et puis on a en collaboration avec le lycée des Prairies un certain nombre de matériel ancien qui nous montre un petit peu comment étaient confectionnés les cordes et les vêtements à l'époque, quoi.
Oui, je resitue un petit peu donc le contexte dans lequel on est là. Donc nous sommes à Voiron, c'était une ville où il y a eu énormément d'industries textiles pendant des années, et je pense que j'ai eu la sensation que les MJC ont voulu un peu choisir ce thème en lien aussi avec l'industrie textile de Voiron.
Oui, absolument, il y a un historique sur Voiron et puis sur la région, puisqu'on est en collaboration avec deux musées, donc ils nous ont aussi prêté du matériel. Donc on avait beaucoup de choses disponibles pour pouvoir avoir un sujet principal autour de la fibre.
Est-ce qu'il y a encore des entreprises à Voiron autour du textile en ce moment?
Alors, pas à ma connaissance, mais j'ai pas trop suivi un petit peu. C'est mes collègues bénévoles qui ont fait un petit peu le tour des musées, des écoles et des entreprises. Mais je crois pas qu'on ait d'entreprises ici qui soient encore en fabrication ou utilisation.
Donc la fête de la science à Voiron, là, cette année, ça sera donc un peu de robotique, une conférence, et puis ce que j'allais dire. Voilà.
C'est-à-dire qu'en complément de tous les ateliers autour de la fibre, on a l'habitude, parce qu'on collabore avec des associations autour de l'astronomie, l'astrologie, astronomie plutôt, ils vont pas être contents, et donc on a l'habitude d'avoir un certain nombre d'ateliers, donc observation du soleil quand le temps le permet, découverte du cosmos, une idée aussi sur les grandeurs, du très petit au très grand, et puis la découverte de notre univers avec toutes les planètes, comment ça s'oriente. Ça.
Donc une fête de la science sur 4 jours avec de l'astronomie, un peu de robotique, une série d'ateliers sur le thème de la fibre et du textile et du nœud et tout ce qu'on peut faire avec. Et je crois qu'on a fait un peu... Et une conférence.
Oui, voilà. Et puis cette année, on a la chance à Voiron d'être accompagné par un certain nombre de lycées. Donc le lycée des Prairies qui vient faire des ateliers, mais qui est aussi porte ouverte pour aller visiter chez eux. Aujourd'hui, il y a des ateliers qui sont faits au lycée Ferdinand Buisson, qui accueille 5-6 classes. Donc c'est les profs et les élèves qui organisent ça sur la journée. Donc pour la deuxième année, ils nous accompagnent. Donc comme on ne peut pas avoir tous les scolaires sur la fête ici, puisqu'on a beaucoup de demandes et on est limité, on a cette extension auprès du lycée Ferdinand Buisson. Et puis on a des enseignants et des élèves du lycée Édouard Herriot qui viennent tenir avec nous des ateliers sur la fête de la science. Donc une bonne collaboration avec les lycées aux alentours pour exposer les technologies.
À tout un chacun. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Gilles, pour toutes ces précisions.
Avec plaisir et merci d'être parmi nous.
De la réalisation de nœuds de cordes. Je suis avec le club d'escalade et d'alpinisme de Voiron. Je suis avec Jean-Michel et on va parler un petit peu de fabrication de cordes. Je suis devant une vidéo.
Alors, c'est des...
Expliquez-moi, Jean-Michel.
Alors, ce sont des cordes prévues pour faire de l'escalade. Donc, chaque corde, en fait, a une âme, c'est-à-dire un ensemble de fils que vous voyez qui sont déjà torsadés les uns avec les autres, entourés d'une gaine. Et là, on voit l'application de la gaine autour de l'âme. Et au ralenti, on voit très bien que tout ça se chevauche. Mais en vitesse normale, ça va très très vite. Hein. Et donc, on voit la corde se former au fur et à mesure. Et là, il teste justement la qualité de la corde en faisant un pli au niveau de... Et donc la gaine est là pour protéger. Et en fait, la qualité de la corde, si c'est une corde dynamique, c'est son élasticité, mais pas, disons, énorme. Hein. Et là, c'est une autre fabrication de corde avec une autre âme en polyéthylène et qui va donc être avoir d'autres propriétés, beaucoup plus résistantes selon l'usage.
Un fil d'une matière tissée est beaucoup plus résistant qu'un le même fil de la même matière non tissé.
En voilà, fait. En fait.
L'association des fils alors, donne de la résistance, en fait.
Voilà, en fait, si on détaille, disons, un fil... On s'aperçoit qu'il est très très fin au départ. On va avoir un exemple là. C'est que initialement, là on voit c'est une petite cordelette hein, qui fait dans les 3 mm de diamètre. Et si on commence à éplucher une des extrémités, on se rend compte d'où on part au niveau de la fibre.
Oui, un mini fil.
Voilà. Et en fait, tout ça, c'est torsadé au fur et à mesure. Et ensuite, c'est assemblé par différents
procédés.
Voilà, on fait du... On les noue, enfin, c'est pas noué, mais c'est tressé.
Tressé,
ça ne va pas être le terme, je crois, tressé.
Bien manœuvré avec la main.
C'est torsadé, en fait. Chaque... Et puis, on obtient, disons, un brin plus d'un diamètre plus important. Et les différents brins, on va encore de nouveau les torsader, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, on obtient donc un cordage ou une corde d'un diamètre de plus en plus important. Mais à chaque fois, tout ce qui est ajouté, c'est déjà pré-torsadé depuis la fibre initiale. Hein, tout ça, c'est parce que, comme vous dites, quand on tire sur une fibre, quand elle est sol, etc. Exactement. Donc, voilà.
La matière principale des cordes d'escalade aujourd'hui, c'est du polyester ?
Alors, c'est un polyéthylène. Alors, ça dépend. Hein. Quel genre de... D'antan, c'était du chanvre. J'avais un atelier là-bas qui utilise donc du chanvre. Et donc, pour les cordages de marine, essentiellement, avec des avantages et des inconvénients pour ce genre de matériaux. Et ensuite... avec, disons, le pétrole et puis les développés du pétrole, il y a, les matériaux synthétiques. Et en synthétique, maintenant, tout est en synthétique. Maintenant.
Des fois, j'y arrive.
On ne revient plus, disons...
gros cordage.
Voilà.
Et, on fait beaucoup de polyester aujourd'hui.
Alors,
avec une gaine, avec des produits chimiques, traitements pour l'humidité, pour la pluie. Après,
voilà.
On les traite.
Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est exactement. Comment
moi, j'avais moi-même acheté une corde d'escalade et on m'avait expliqué qu'il y avait des traitements autour.
Alors là, au niveau fabrication.
Voilà, mettre des produits un peu dessus en finition. Doute,
ouais. Là, je ne peux pas vous dire.
Cette corde a une durée de vie. Elle ne dure pas 10 ans, la corde.
Il a fait dire ça. Il dit que les fibres
Donc les corps d'escalade, ils ont tous une durée de vie, je pense, de 5 ans maxi.
J'y suis arrivée. Voilà.
On voit en fait, effectivement, tout ce qui est le soleil, ça brûle, hein, ça brûle bien la peau, mais ça brûle aussi tout ce qui est autour, les toiles de tente et tout ça, ça vieillit au soleil. Donc il y a un point important, c'est que non seulement quand elles sont utilisées à l'extérieur, les cordes s'usent naturellement, hein, par disons, tout ce qu'on leur fait faire, mais également il faut les protéger des UV, de l'humidité, etc., quand on ne s'en sert pas. Ça, c'est vraiment très important si on veut augmenter la durée de vie d'une corde. Donc, alors après, effectivement, il y a certainement des traitements, mais ça, je ne connais pas.
Oui, oui, c'est peut-être pas aussi efficace que juste changer de corde.
Voilà, donc c'est... Et donc, on teste chaque corde tous les ans.
D'accord.
C'est-à-dire, on teste, puisque dans chaque corde, il y a une âme, hein, et la gaine. Et si une corde a été sollicitée, en fait, on peut le savoir parce que les fibres sont cassées. Alors, ça, le contrôle consiste à prendre comme ça et à faire une boucle sur tout au long de la... Et à un moment donné, si les fibres sont cassées,
on
lui fait faire une boucle. Et quand la boucle, en fait, quand les fibres sont cassées, vous n'avez plus de boucle.
Les deux joints se touchent.
Voilà. Et ça, vous imaginez, c'est qu'on contrôle toutes les cordes tous les ans et on a des cordes de 60 mètres.
Ça fait du travail. Et donc là, sur votre stand, quel genre de nœud les participants sont invités à essayer de réaliser ?
Nous avons Madame va vous expliquer.
Le nœud de chaise, je vois.
Le nœud de chaise, oui, on leur fait faire un peu les plus simples quand même. Puis après, c'est un peu à leur choix. Donc on commence souvent par le cabestan ou le nœud de 8. Le nœud de chaise, éventuellement. Il y en a qui réclament le nœud de pêcheur. Donc après, bon, on s'adapte un petit peu à chaque groupe.
Est-ce que vous avez une utilisation précise pour chaque nœud à nous partager ? Est-ce que chaque nœud a
Je ne suis pas une grande experte du nœud.
Je sais que le nœud de 8, c'est beaucoup utilisé en escalade. Le nœud du pêcheur, à quel moment pour la grimpe d'arbre ?
Pour rabouter deux cordes, pour rallonger deux cordes dans un rappel, peut-être. Le machard, c'est pour les rappels, c'est pour glisser.
C'est un nœud autobloquant, il me semble.
Le machard ? Non, il ne faut pas qu'il bloque.
Pourquoi vous faites de l'escalade, alors ?
Il me semble que le machard, il glisse d'un côté, il se bloque.
Et il se bloque dans le... Ouais, si on tire dans l'autre sens, il se rebloque.
On appelle ça autobloquant.
Ben, vous êtes plus experte que moi.
Ah oui, il me semble. Hein, je dis peut-être des bêtises. Ok, donc le machard...
Je ne fais pas d'escalade.
Le nœud chaise, je ne sais pas quoi il est...
C'était... Je pense qu'il est très peu utilisé maintenant. M'a-t-on dit, le nœud chaise, c'était pour les rappels, je crois, avant... Mais c'est pas moi qu'il faut interviewer pour les nœuds, je suis pas très bonne. Le cabestan, c'est aussi beaucoup pour l'escalade et pour le rappel parce qu'il glisse. Bah, c'est deux fois le même. De toute façon, c'est deux fois le même atelier.
Donc, vous savez tous les faire, madame ?
Non.
Ah, vous êtes aussi en découverte ?
Je suis en découverte, donc je les fais avec les. En général, je prends un enfant et puis on regarde comme ça et on essaye de les faire à deux.
Je vous souhaite une bonne journée.
Alors. Merci à vous.
Merci à tous les deux.
Merci, bonne journée.
Je continue mon tour donc sur la fête de la science à la salle des fêtes de Voiron et je suis avec Michel. Bonjour Michel.
Bonjour.
Et je suis à votre stand, je vois plein de pelotes de fil, du chanvre, du coton peut-être.
Non, c'est de la laine.
C'est
une toison de mouton qui sent un peu d'ailleurs.
Ouais. Alors qu'est-ce que vous proposez à votre stand aujourd'hui Michel ?
Donc le but est de faire une corde avec les enfants et on part de la fabrication du fil à partir de la toison de mouton. Donc je leur explique comment on arrive à faire un fil, ne serait-ce qu'un fil, à partir d'une toison. C'est-à-dire qu'en fait, quelque chose qui fait plusieurs centaines de mètres de long, alors que les poils de mouton ne font que quelques centimètres.
Donc, en longueur ?
Oui, en longueur, oui. Et donc, il faut. Donc, je leur pose la question et ils répondent naturellement, eh ben, on les entortille. Et ils le conçoivent tout de suite. Et alors, à ce moment-là, je dis, mais quand on les entortille, qu'est-ce que ça fait ? Et on essaye de comprendre par des des manipulations, ce qui se passe. Et donc, en fait, quand on entortille des fils de, des poils de mouton, on les serre les uns contre les autres. Et en les serrant les uns contre les autres, ils frottent les uns contre les autres, et donc ils ne peuvent pas trop facilement se désolidariser. Donc en fait, je leur montre, ils prennent un fil comme ça, là, un fil cardé, juste donc des fils juste sortis de la, simplement peignés, de la toison et juste peignés, et quand on tire dessus, ils voient que ça ne tient pas du tout. Et quand ils se mettent à l'entortiller, ils font, le fil devient tout petit, tout fin, et là, il devient solide. Et donc, pourquoi ? Voilà, c'est ça. Donc, en fait, il y a les frottements.
Ils se calent les uns contre les autres, voilà. Et il y a une résistance qui se crée.
Voilà. Et donc, pour leur faire comprendre qu'en entortillant des choses autour d'elles-mêmes, on a des frottements importants, je leur montre avec l'histoire du cow-boy qui va avec son cheval devant un saloon. Donc en fait, il arrive devant le saloon, il est à pied, il prend la longe du cheval et il l'entortille autour de la rambarde du saloon. Et il fait trois tours, le cheval ne s'en va pas, parce qu'en fait, il y a suffisamment de frottement entre la corde et le poteau. Et du coup, pour que ça... Donc ça montre qu'il y a des frottements, quand on entortille quelque chose, il y a des frottements importants. Voilà. Et après, je leur dis que même le fil devient plus solide quand on tire dessus, parce qu'on va augmenter le contact des fils les uns sur les autres, et donc ils ne peuvent pas ils se serrent plus, et donc il y a encore plus de frottement.
Alors, j'imagine que vous n'utilisez pas que vos doigts pour donc écraser et torsader ces laines. Quel outil utilisez-vous ?
Ah ben, ça, c'est pour comprendre. Je leur montre qu'il existe des rouets pour torsader les fils. Après, je leur dis en fait, lorsqu'on a, on veut avoir quelque chose de solide, qui résiste bien, je leur demande comment faire. Donc, quand on a des fils qui font quelques centièmes de millimètres, comment arriver à faire quelque chose qui soit beaucoup plus solide qu'un simple fil de laine? Donc, ils comprennent assez rapidement qu'il suffit de les multiplier. Et donc, on en met plusieurs. Et lorsqu'on en met plusieurs, bien sûr, c'est plus solide, mais ils s'en mêlent. Et donc, c'est ingérable. Donc, toute l'astuce du filage, c'est de faire, d'assembler plusieurs fils élémentaires sans qu'ils ne s'en mêlent. Et donc, pour ça, on peut les tresser, on peut les coller, on peut les mettre dans une gaine, comme les cordes d'escalade, par exemple, mais aussi, on peut les entortiller. Et j'ai deux machines qui permettent aux enfants d'entortiller des fils pour qu'ils fassent une corde. Alors, pour ça, il faut comprendre, parce que si on entortille des fils, dès qu'on les lâche, ils se désentortillent. Donc, faire en sorte que la corde ne se désentortille pas. Alors, pour ça, je leur montre que quand ils ont tout à l'heure entortiller leur fil de laine, ils ont tourné dans un sens, mais ils auraient très bien pu faire la même chose en entortillant dans l'autre. Et donc il y a deux sens de torsion pour les fils. Et donc pour faire un cordage qui ne se défait pas, on entortille les fils dans un sens, et puis ça fait des espèces de torons qu'on entortille dans l'autre sens, les uns avec les autres, si bien que la corde ne peut pas, elle a tendance à se désentortiller parce que dans un sens, mais aussi dans l'autre, et donc elle reste stable. Et donc ils font ça avec une machine.
Le secret de l'entortillage de fils.
Et tous les fils, la plupart des fils, 90% des fils sont comme ça, entortillés dans les deux sens. C'est-à-dire même un petit fil de couture. En fait, il y a là pour celui que j'ai là deux fils qui sont tordus dans un sens et entortillés l'un sur l'autre dans l'autre sens.
Juste deux fils.
Là, il n'y a que deux fils. Mais on ne les voit pas, il faut regarder au microscope quoi, pour les voir. Voilà. Voilà, donc ils comprennent un peu comment, voilà ce qui se passe. Et ils manipulent et ils font leurs cordes et ils partent chacun, chacun par groupe.
Alors on parle de pollution d'industrie du textile,
oui,
beaucoup hein,
ouais,
en ce moment, deuxième pollution sur la planète après les énergies fossiles. Qu'est-ce qui pollue en fait dans cette industrie du textile?
En fait, ce qui pollue, c'est le lavage, essentiellement. En fait, on lave énormément les textiles. Il part des morceaux de fil, parce qu'en fait, ils sont entortillés, mais ils peuvent partir dans l'eau. Et en fait, c'est la principale source de plastique dans les océans. C'est des fibres arrachées par les machines à laver au tissu. Donc, il faut laver le moins possible.
Ou acheter des vêtements biologiques.
Bah non, en fait, même les vêtements dits biologiques se dégradent, mais souvent ils se dégradent aux UV, ou avec la lumière du soleil. Ça a été fabriqué comme ça. Et en fait, quand ils arrivent dans la mer, ils sont sous forme de nanoparticules qui sont entre deux eaux et qui sont à l'abri des ultraviolets du soleil. Donc ils ne se détruisent pas et s'accumulent dans l'eau.
Mais si c'est du chanvre ou du coton bio, c'est peut-être moins gênant.
Ils l'avalent quand même. Alors après, en fait, c'est ce qui se pose avec les...
C'est les microparticules, c'est le problème. Du pétrole, du polyester du coton.
En fait, les poissons prennent ça pour du plancton. Et donc, ils l'avalent et c'est pas nourrissant. Donc en fait, ils se remplissent avec un truc pas nourrissant et qui leur demande plus d'énergie pour l'évacuer que s'ils avaient avalé du plancton, parce qu'ils doivent l'évacuer tel quel, et donc l'absorption de ces particules, qu'elles soient de végétales ou minérales ou animales, c'est pas de la nourriture, c'est pas du plancton, et donc ça pose un problème.
Un épuisement énergétique dans la digestion du poisson.
Exactement.
En fait.
Voilà, c'est ça. Donc c'est essentiellement par ce biais-là. Mais actuellement, la goélette Tara s'est aperçu de ça, en fait, qui s'occupe de la pollution dans les océans. Et ils se sont aperçus qu'il y a beaucoup de particules qu'ils récupèrent entre deux eaux qui viennent des océans, enfin qui viennent, excusez-moi, des fleuves qui arrivent dans les océans parce que les gens rejettent les filtres des stations d'épuration d'eau sont pas suffisamment performantes. Donc ces nanoparticules partent dans les fleuves et ils sont actuellement en train de repérer toutes les parties d'où viennent effectivement les nanoparticules dans les fleuves.
Donc l'eau des machines à laver devrait avoir une évacuation à elle,
oui,
qu'elle soit à un endroit, et l'eau de la vaisselle, des toilettes, de la douche à un autre endroit. Alors,
oui, certainement c'est une bonne solution, mais après il faut les filtres très performant pour arriver
à... Quel filtre pourrait arriver à... Voilà. Ce qui est fou, c'est que la machine, une simple machine à laver arrive à arracher des bouts de fil.
Ah bah,
ça a l'air tellement serré, torsadé.
Oui, mais un fil de laine, ça fait quelques centièmes de millimètre. Et en fait, c'est parce que ils sont cassants à l'échelle microscopique. Mais en fait, il y a des petits morceaux qui partent. Et c'est d'autant plus important que ces nanoparticules n'ont pas du tout la forme des nanoparticules qui ont été testées en laboratoire sur les organismes vivants, et elles sont sous forme de plaquettes souvent, alors qu'en laboratoire on a testé les effets sur la biologie des nanoparticules sphériques parce qu'on sait mieux les faire, et du coup l'impact
n'a rien à voir avec la réalité.
L'impact est certainement beaucoup plus important que ce qu'on croit. Donc on est tout au début de cette
révélation.
Voilà, c'est un scoop. c'est un gros problème. C'est un gros problème.
Faudrait remettre en question toute l'idéologie du vêtement et revenir à des peaux de bêtes qu'on garderait, qu'on ne laverait pas. Ce serait quoi le au fond de la question pour la réponse de cette
question? Déjà moins lavé. Ah oui, parce qu'on lave trop.
Ça ne suffirait peut-être pas.
Ben, c'est ça qui arrache les particules aux vêtements. Si on enfouit des vêtements dans la terre, ça part pas. C'est en fait une machine à laver arrache énormément, frotte énormément, et donc ça use les vêtements. Donc ça envoie des particules dans l'eau.
On a trouvé le monstre, la machine à laver.
Oui, c'est un peu ça.
Parce que quand on lavait un vêtement à la main à l'époque, ça arrachait également des fibres, mais moins ah, certainement.
Ouais, certainement moins, et puis surtout, comme c'était pénible, on le faisait beaucoup moins.
Il y avait bien des personnes qui étaient embauchées pour faire ce travail-là. Hein,
mais oui, mais on le faisait une fois par mois. Hein, voilà,
c'est vrai qu'on se lavait moins les vêtements avant, même en général.
Oui, et là, les vêtements, ils sont prévus pour être usés, pour être remplacés. Il y a de l'obsolescence aussi là-dedans. Tout est fait pour qu'il n'y ait plus de vêtements, enfin qu'ils ne partent plus, soient plus portables. Et donc, du coup, tout le reste part dans l'eau.
Et les poissons mangent ces petites particules.
Voilà.
Donc, très bien. Bon, bah, Michel, on va rester là sur cette problématique qui nous concerne tous, du coup. Et puis, merci. En tout cas, on saura comment construire un fil, déjà, toute sa vie jusqu'au poisson.
Voilà. Bon, avec les enfants, on n'arrive pas jusqu'à ces phénomènes-là, mais ce sera intéressant. J'espère que les gens qui viendront dans le week-end, on pourra éventuellement en parler, parce que c'est important.
Un petit peu plus sur comment faire donc une bonne machine à laver de façon le plus écologique possible pour ne pas créer de microparticules qui vont ensuite se déverser donc dans les océans. Je suis toujours avec Michel et on s'interrogeait sur donc comment donc avoir un acte écologique en tant que citoyen aujourd'hui. Donc, la solution serait de moins laver, ce serait donc de faire moins de machines à laver.
Oui, en fait cela c'est économique, on n'est pas forcément écologique parce qu'en fait plus on a des cycles longs. Donc bien sûr qu'ils vont utiliser moins d'eau, moins de produits, c'est une chose, ça. Donc ça c'est intéressant. Mais par contre, il va arracher beaucoup plus longtemps des particules parce que les cycles sont très longs, le linge est brassé plus longtemps, donc il va s'user d'abord plus vite et donc les particules vont partir dans l'eau.
Il n'y a pas une notion de vitesse qui est associée, c'est-à-dire est-ce qu'un cycle long mais lent ne va pas être quand même... arracher moins de fibres qu'un cycle court et rapide.
Ça, c'est ce qu'il faut. C'est avoir des cycles qui vont très lentement, qu'il y ait des essorages qui ne soient pas trop forts, et puis ça ne lave pas bien. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on ne lave pas souvent pour rien, simplement pour enlever un petit peu de sueur ou des choses comme ça, ça suffirait largement. Hein.
Alors moi, ma question, c'est est-ce que les cycles proposés par une machine à laver standard ne sont pas tous déjà à des vitesses trop élevées et que ce soit un cycle lent ou un cycle rapide, dans tous les cas, ça arrache énormément de particules. Ou est-ce qu'il y a une différence? Un cycle lent est intéressant à utiliser.
Je ne connais pas le détail. Mais il existe. Enfin, lent ne veut pas dire que ça ne tourne pas vite. Donc c'est parce que ça tourne plus longtemps. Le cycle est plus lent ou plus long. Mais en fait, on peut très bien essorer à 1000 degrés avec un cycle lent. Donc en fait, c'est pas. Il faudrait que les machines à laver brassent moins
Vraiment, un simple brassage, déjà, c'est trop. En fait.
Voilà, c'est ça qui arrache les particules.
La question, c'est ça, hein, un simple brassage, même lent, oui. Déjà, ça arrache.
Non, et faisons tremper le linge. Et puis voilà, et puis c'est bon.
Oui, donc le mouvement génère de l'arrachement de particules, donc faisons tremper le linge. Eh bien, merci Michel, restons là-dessus. Merci beaucoup.
Ben, je vous en prie.
De Voiron avec Yves. Bonjour Yves, qui donc travaille au lycée Les Prairies de Voiron.
Oui, bonjour, Yves Bétega, donc directeur du lycée Les Prairies, depuis peu de temps, mais directeur à plein temps.
Alors, on m'a dit, Yves, que vous aviez une filière textile dans votre établissement, c'est bien ça?
Oui, le textile, c'est vraiment l'ADN du lycée, puisque depuis 1952 que l'établissement existe, donc au départ pour former des tisseurs uniquement, et puis après des gareurs, des ourdisseurs, le lycée a vraiment le textile dans son ADN, et après donc une évolution en termes d'ouverture de sections, de classes, etc. Aujourd'hui, donc, on a l'avantage de mixer trois publics. On a à la fois des lycéens, on a des apprentis, et puis on a beaucoup de publics adultes, puisque nous avons la plus grande plateforme technique de formation au métier textile pour les adultes de France.
Donc, ce sont des adultes qui se reconvertissent, ou ce sont des personnes ce sont des formations continues?
Alors, deux types de publics, on a à la fois des demandeurs d'emploi qui sont repérés par des entreprises textiliennes et qui veulent les former à un premier niveau de qualification avant d'aller plus loin dans la professionnalisation. Et puis, on a aussi beaucoup de salariés d'entreprises qui, après 10-12 ans à passer dans les ateliers, ont besoin de cranter en termes de compétences techniques ou d'évoluer en termes de poste. Donc, ils viennent chez nous sur des périodes de plus ou moins longues, validées, soit un titre professionnel, un CQP, ou simplement des modules techniques qui leur permettent d'être plus à l'aise sur le poste.
Vous proposez donc des formations dans la fabrication de tissus, dans la couture, dans la conception. Qu'est-ce qui est proposé comme formation dans votre établissement?
Alors chez nous, les formations ne portent absolument pas sur tout ce qui tourne autour de la couture. Nous travaillons uniquement sur la production textile. Donc les entreprises pour lesquelles nous formons et travaillons sont des entreprises qui produisent de la fibre de verre, du carbone, du Kevlar, mais aussi des textiles à haute qualité, à haute valeur ajoutée, puisqu'on travaille beaucoup avec les entreprises de la soie. Qui sont encore sur des produits, on va dire, classiques.
Pas de tissu commun, plutôt soit de tissu soie haute qualité ou de tout type de fibre.
Oui, c'est ce qu'on appelle les textiles à usage technique. Donc en fait, ce sont des produits que vous portez sur vous ou dans votre voiture, que vous prenez un avion, que vous prenez un train, mais vous ne savez pas qui sont dans cette sphère-là. C'est la grande difficulté du textile, c'est que quand on parle textile, les gens pensent habillement, alors que le textile habillement est à 95% importé de Chine ou d'Inde, et que le seul textile d'habillement qui existe aujourd'hui en France, c'est soit du textile d'ameublement, soit du textile à usage technique, donc les sièges de voiture par exemple, ou le carbone que vous retrouvez dans votre tableau de bord, ou les toiles de l'airbag de votre voiture, et aussi tous les textiles sportifs. Donc quand vous faites de la voile, quand vous faites du skysurf, quand vous faites... effectivement, vous utilisez des textiles techniques qui sont fabriqués dans notre région.
Et donc vous formez donc les personnes à cette fabrication de textiles.
Voilà, tout à fait.
Quelles problématiques vous rencontrez en ce moment dans le contexte un petit peu du monde du textile en France et dans le monde?
Alors nous, la problématique à laquelle nous sommes confrontés, c'est une pénurie de candidats. C'est-à-dire qu'en fait, on a énormément d'entreprises qui nous demandent des jeunes et des adultes prêts à embrasser la profession. Et on a une profession qui est plutôt masquée, à la fois parce que les entreprises ne sont pas des grands communicants, il faut bien le reconnaître. D'où la création au niveau national d'un label qui s'appelle French Techs, que vous avez vu sur nos affiches. Donc l'idée, c'est d'amener les entreprises à avoir plus de communication vers l'extérieur et ne plus rester un peu dans l'entre-soi. Au même titre que d'autres industries, effectivement, qui savent faire parler d'elles, le textile, pour l'instant, est plutôt balbutiant là-dessus. Donc la problématique pour nous, c'est effectivement, c'est mieux communiquer. C'est pour ça qu'au niveau du lycée, on fait des journées portes ouvertes. On participe aujourd'hui donc à la fête de la science. On propose à des structures comme l'école de la deuxième chance pour en venir régulièrement présenter le lycée, les métiers, les filières de formation donc à leur public. Et on essaie de mettre en place aussi une opération qui devrait se faire sur janvier l'année prochaine, donc avec des demandeurs d'emploi du bassin voironnais, sur les amener effectivement, leur faire goûter les plaisirs de nos métiers, les amener sur une opération de qualification avec un temps de formation, un centre de formation, une alternance en entreprise, avant une embauche en entreprise à l'issue. Donc,
voilà. À tous les candidats, le lycée Les Prairies vous accueille les bras ouverts pour apprendre donc les métiers du textile. Moi, je voulais vous poser un petit peu une question par rapport à l'écologie. Quel est votre rapport aujourd'hui dans votre établissement par rapport à la problématique du textile et de la pollution textile qui est assez importante aujourd'hui? Est-ce que vous avez un regard dessus, d'autres axes d'action pour l'avenir?
Alors, moi ce que je dis, c'est que aujourd'hui, on a tout à gagner effectivement à être de plus en plus écologiste, parce que ce qui fait qu'aujourd'hui le textile a disparu en France, c'était le fait que le coût du transport est extrêmement faible. Donc fabriquer du tissu pour faire des vêtements en Chine, c'était rentable, donc effectivement le coût du transport était mineur. À partir du moment où effectivement les coûts de transport vont évoluer, que les taxes carbone sont effectivement appliquées, à ce moment-là, les industriels y penseront à deux fois et se rendront compte qu'effectivement le produire local pour vendre local a tout son intérêt. Et quel que soit le type de matière.
Vous parlez d'une pollution de déplacement, de transport.
Et de fabrication.
Et oui, de fabrication.
Le textile est extrêmement un gros consommateur d'eau. Les teintures sont des grosses consommatrices d'eau et sont facilement polluantes. Effectivement.
Mercure, solvant.
Entre autres, oui, mais pas que. Le jean, le produit le plus vendu dans le monde, c'est une catastrophe écologique.
Racontez-nous un petit peu la catastrophe écologique du jean. Il y a le mercure et les colorants et solvants pour la teinture.
Oui, mais la catastrophe écologique du jean commence déjà par le produit en lui-même. Parce que le coton est une plante qui demande énormément d'eau. Et on a eu, comme c'est une plante à forte valeur ajoutée, beaucoup de pays ont voulu faire du coton. Parce qu'effectivement, on pouvait gagner de l'argent, mais on a séché lors de la phréatique. Et après, le traitement du coton en lui-même demande beaucoup d'eau. Et les teintures qui sont utilisées ne sont pas forcément des teintures de produits naturels, même si on en trouve.
Et même si on trouve la teinture naturelle, il faut la fixer.
Il faut la fixer.
Avec quelque chose qui n'est pas naturel.
Exactement. Donc c'est un produit, effectivement, qui après, effectivement, se rajoute encore le fait qu'une grosse partie des productions se fait en Inde, en Chine, en Égypte, et qu'il y a une problématique de transport après qui fait que c'est un produit qui est extrêmement polluant. Ce n'est pas le seul.
Est-ce que vous avez une approche du coup des cours qui sont un peu proposés dans votre établissement de sensibilisation à tout ça, à l'écologie, le textile, et qu'est-ce qui se fait un petit peu en ce moment, quelles sont les problématiques actuelles? Est-ce que vous en parlez un petit peu
dans
votre enseignement?
Oui, au niveau des bacs pro, c'est abordé, puisqu'il y a une matière qui s'appelle PSE, Prévention Santé Environnement, dans laquelle effectivement il y a des modules adaptés. Alors il y a tout le programme général, et on adapte aussi par rapport aux produits textiles. La problématique pour le textile technique, c'est que les produits qu'on utilise, que ce soit le carbone, le kevlar ou le verre, sont des produits qui sont propres en fabrication. La difficulté pour eux, après, c'est le devenir.
Le verre, le carbone, le devenir, oui. Ouais, bah, le verre, ça va, non?
Problème du recyclage.
Le verre, c'est bon, c'est plutôt...
C'est plus facile à recycler.
Oui, mais plutôt textile carbone.
Le carbone, c'est beaucoup plus compliqué. Donc en fait, pour l'instant, c'est des produits pour lesquels, en phase finale, on sait effectivement les broyer et les amener à des microparticules, mais on sait que les stocker. Il n'y a pas de filière de recyclage du carbone ni du Kevlar.
Vous êtes plutôt optimiste, du coup, pour l'avenir, un petit peu, sur tous ces métiers? Vous pensez qu'ils auront une vraie place?
Ben, si je suis optimiste, moi, aujourd'hui, c'est que je me rends compte que les confrères dans le Nord, aujourd'hui, relancent de plus en plus des formations dans le lin, par exemple, parce que la toile de lin est de plus en plus sollicitée pour la marine à voile. Il y a de plus en plus d'amateurs de voile qui veulent effectivement avoir un bateau propre, donc pas de polymère et du lin. Donc, ce qui fait que si aujourd'hui les industriels réinvestissent dans des machines à tisser le lin dans le Nord, ça veut dire effectivement qu'ils ont une vision qui permet de se dire ça a de l'intérêt.
Quand vous dites le Nord, c'est le Nord de la France ou le Nord de l'Europe?
Alors, c'est le Nord de la France, l'Est et le Nord de la France. Les Vosges, Jura et le Grand Nord.
C'est tout proche alors.
C'est tout proche.
Ça va bientôt venir au lycée des Prairies, je le sens.
Oui. Ils seront bienvenus, les bienvenus en tout cas.
Vous avez une filière lin dans votre établissement ?
Alors, on n'a pas de filière lin, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les métiers à tisser, un métier à tisser, c'est une machine qui permet de travailler tout type de matière. Donc après, c'est en fonction de la commande du client, il y a des réglages particuliers, mais quelqu'un qui sait travailler sur un métier à tisser est capable de travailler le verre, le carbone, le lin, le coton, la soie, peu importe.
Ah, super.
C'est une vraie polyvalence. Après, il y a des affinités, il y a des aptitudes différentes par rapport aux produits, parce que certaines personnes trouvent valorisant travailler la soie que travailler le carbone, et d'autres, au contraire, dire ben, le carbone, c'est un environnement industriel pur, je trouve ça plus valorisant que de faire de la soie pour des écharpes. Voilà. Donc, c'est plus une question d'envie, de goût et de culture, après.
Que vous voudriez un métier à tisser, pour le lin, peut-être.
Alors,
pas encore cet outil
On peut l'adapter. On a des métiers sur lesquels on peut adapter pour travailler l'un. Ouais.
Ah, il n'y a plus qu'à alors.
Il n'y a plus qu'à. Mais aujourd'hui, en région Rhône-Alpes, on n'a pas de demande. Il n'y a pas de demande au niveau du lin. Ou alors, elle est très marginale.
C'est vrai que par ici, il n'y a pas beaucoup de bateaux.
Si, sur l'Aude, mais pas à voile.
Bon, bah, peut-être ça viendra. C'est un courant.
On peut l'espérer.
Si c'est une des solutions dans le tissu écologique, peut-être que
ça peut.
Tout le monde viendra petit à petit.
Tout à fait.
Et bah, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Donc à tous, les candidats, n'hésitez pas à aller toquer à la porte du lycée Les Prairies qui vous accueillera pour toute une série de formations passionnantes sur le textile industriel.
Merci, merci à vous. Au revoir.
Merci, au revoir. Et c'est la fin de cette émission Canal Science. Vous venez d'écouter donc les différents intervenants de la Fête de la Science de Voiron qui vous ont parlé textile. Et j'aimerais vous proposer quelques liens pour recycler vos vêtements, comme différents sites internet, donc le Vide Dressing, Price Minister, Vinted, Le Bon Coin, Le Vestiaire Collectif. Tous ces sites vous permettent de recycler vos vêtements ou d'en trouver de nouveaux. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt sur Radio Campus Grenoble 90.8.
Vous avez vos papiers ?
NASA, monsieur l'agent.
Eh ben, je savais pas qu'ils engageaient des
femmes, il y en a beaucoup, qui travaillent au programme spatial. Il faut une calculatrice pour l'aérospatiale. Catherine fera ça très bien. Tout ce qui est chiffres, elle en fait son affaire.
Canal Science. La science à portée de main, pour tous.
On ne sait jamais d'où surgira la prochaine avancée, ni qui la fera.
Et si j'inversais le temps, pour savoir ce qui a pu se passer au commencement ?
Remonter le temps.
Remonter le temps.
Continue. Continue.
C'était Edith de Canal Science sur Radio Campus Grenoble 90.8. Nous vous souhaitons une bonne soirée sur nos ondes et vous disons à demain pour une nouvelle apérophonie.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie ! Quoi ? Sur Campus Grenoble ! Sur quoi ? Sur le 90.8. Ah, sur Campus Grenoble 90.8. Oui.